Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
C'est bien fait pour vous, votre magazine Feel Good. Ici, on scrute notre vie quotidienne chaque jour pour la rendre encore plus douce. Aujourd'hui, Julia, on va parler de quoi justement ?
Eh bien, on va parler de complexes physiques aujourd'hui et même d'un peu plus que ça. Des joues trop rondes, un nez trop plat, des lèvres trop fines. On a toutes et tous un complexe, mais si c'était dans notre tête ? On va donc parler notamment de dysmorphophobie, cette obsession des défauts qu'on est parfois les seuls à voir. Et pour régler ça, pas toujours besoin de bistouri, même si ça peut aider, on en parlera. On va évoquer aussi la prise en charge psychologique de ces problèmes. Et pour parler de tout ça, nous recevons le docteur Alexandre Marchac, chirurgien plasticien à Paris, ainsi que Kaline Madjalani, psychologue spécialisée dans la prise en charge de ce trouble, la dysmorphophobie. La suite du programme, Mélanie.
Ensuite, à 11h45, il y aura le quart d'heure de nos bienfaiteurs, dans lequel on vous proposera d'abord quelques suggestions lecture pour les plus jeunes. Nathalie Le Breton va nous présenter des livres qu'elle a sélectionnés avec soin qui peuvent aider les enfants à dire non à la pression, celle qu'on leur met parfois sans faire exprès, ou même celle qu'ils ressentent à l'école. Et puis il y aura aussi de la gourmandise au menu aujourd'hui avec le chef Abdel Alaoui. On vous parlera des figues, la saison de ce fruit de la chaleur touche à sa fin. On vous donnera quelques astuces pour en profiter encore en cuisine. Vous êtes sur Europe 1, notre question du jour, je vous la rappelle, face au complexe, la solution est-elle plutôt le bistouri ou le psy ? Vous verrez dans un instant dans quel camp vous situez, mais avant ça, alors lui, je pense qu'il n'a aucun complexe, enfin il va nous en parler. Hein. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Alors ça surprend toujours quand je dis ça, mais regardez ce corps, tout est naturel et je sais que ça choque énormément. On va parler exactement de chirurgie esthétique, le mot est dur à prononcer. Est-ce que les enfants sont au courant, les plus jeunes, de ce qu'est la chirurgie esthétique ? On s'inquiète, je vous rassure, pas tous.
Moi, la chirurgie esthétique, je crois que c'est plutôt la connaissance du chien, parce que peut-être chirurgien, peut-être qu'on dit ça, je sais pas.
Voilà. Donc voilà, c'est chirurgie, c'est peut-être un chien. Tout. Je leur ai expliqué ce que c'était et du coup, ils veulent tous s'y mettre. Je leur ai dit, si vous pouviez changer, vous prendriez quoi et à qui ?
Moi, je voudrais avoir les yeux d'Angèle, la bouche d'Ariana Grande et le nez de Carla.
Oh ben donc, voilà, c'est simple.
Je rassure les chirurgiens, vous avez du boulot pour encore quelques années. Je vais vous expliquer justement, avant de passer justement au bistouri, j'ai quand même quelques conseils à vous donner. Le premier, c'est de tourner vos complexes positivement. C'est ce que je fais, ça marche toujours. Non, tu n'es pas gros, Clément, t'as juste un physique de rugbyman. Ça passe beaucoup mieux. Voilà, tu ne louches pas, tu regardes juste dans des directions différentes. Votre bouche n'est pas plus petite que la moyenne, c'est juste que vous dites moins de bêtises que les autres, peut-être. Deuxième étape, il faut s'adapter à ces complexes, c'est-à-dire les prendre, apprendre à les aimer, voilà, et puis trouver des feintes. Par exemple, si votre nez est trop visible sur le visage, achetez des lunettes colorées. Si vos dents sont pas droites, prétextez un Covid, vous mettez un masque.
Il nous fait l'émission, là, en fait. Voilà. Ouais, c'est bon.
Si vous trouvez que vos hanches sont trop imposantes, voilà, vous achetez des chaises plus larges. Si votre poitrine est trop petite selon vous, prenez un ou une chérie avec des plus petites mains. Voilà. Si vous trouvez que vous avez trop de ventre, vous partez habiter aux États-Unis, vous serez le maigrichon de la bande. Je l'ai fait un mois, ça cartonne. J'étais maigre là-bas. Enfin, l'autre conseil que je vous donne, c'est de demander l'avis à vos proches avant de passer justement au stade opératoire. Ne demandez pas à vos enfants, hein. J'ai demandé à cette jeune fille.
Moi, je pense que mon papa devrait se refaire le nez.
Voilà. Oh, sympa.
La vérité sort de la bouche des enfants, donc ne le faites pas, c'est assez vexant. Et puis surtout, si vous décidez de franchir le cap, choisissez bien votre chirurgien. Voilà. Il est très important de lui dire précisément ce que vous pensez, quels sont vos complexes. Ne le laissez pas faire. Si vous arrivez en disant, à votre avis, je viens pourquoi, et qu'il vous dit, ah, j'imagine que c'est les oreilles décollées. Non, c'était pour mon nez. Ah, bon, ben, ça fera deux devis, du coup. Donc voilà, attendez avant de le faire, mais sinon... faites appel à des professionnels, cette émission est là pour ça.
Oh, eh bien, merci beaucoup Clément Lanoux. On va maintenant décortiquer plus consciencieusement ce sujet des complexes avec nos spécialistes. D'abord avec vous, docteur Alexandre Marchac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc chirurgien plasticien à Paris, puis avec nous aussi en studio, Kaline Madjalani, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue spécialisée en dysmorphophobie et autrice également de ce livre que montre Mélanie, Traiter la dysmorphophobie, paru aux éditions Dunod. Alors, docteur, on parle ce matin des complexes et après l'été, on a de nouveaux complexes qui surgissent parfois, la plupart du temps, au niveau de la silhouette. Est-ce que c'est justement parce qu'on s'est vu en maillot de bain pendant quelques semaines et qu'on s'aime pas ? Est-ce que vous repérez, vous, un pic à la rentrée en septembre de gens qui sont particulièrement complexés ?
Alors, d'abord, il faut dire que ce que vous venez de dire en humour, il y a tellement de vrai.
Merci.
D'accord. Et donc, c'est vraiment, je pense qu'effectivement, vous avez quasiment résumé une grande partie de l'émission. Mais on va creuser ça ensemble. Et après l'été, pendant l'été, on se voit. On se voit un peu plus dans nos pays tempéré, l'hiver, on se cache avec des vêtements et tout ça, et puis l'été, on peut pas. L'été, on est en maillot de bain, on est à la plage, et puis il y a des amis qui vous prennent en photo et tout ça, et donc effectivement, c'est souvent à ce moment-là que les gens prennent un peu plus conscience de leur apparence, de leur corps en tout cas, et que ça peut générer quelques petits complexes.
Et vous avez raison, c'est souvent par le biais de photos qu'on s'aperçoit
On se dit, oh là là, mais mes bras, c'est pas moi, possible.
Mais parce que là, c'est ce que vous aviez dit, c'est que finalement, les complexes, ils viennent, c'est quelque chose de nous, mais c'est beaucoup à voir avec le rapport aux autres et notre image. Probablement que ces complexes, ils sont nés quand Homo sapiens a inventé le miroir. Mmh. Et puis ça s'est vachement accéléré au XXe siècle quand on a inventé la photo, le cinéma. Et maintenant qu'on a tous dans la poche une petite caméra, et qu'on peut se photographier et qu'on peut se voir, ça a complètement amplifié notre rapport à notre corps et au complexe.
Et à l'inverse, peut-être qu'en septembre, là, justement à la rentrée, pour le visage, là, c'est peut-être différent. Au contraire, on se trouve une bonne mine à la rentrée.
Il y a
moins de demandes sur le visage à la rentrée. Opérations annulées, je crois.
Oui, alors moi, je suis très spécialiste dans le visage, je ne fais que ça. Et souvent, je vois des gens au printemps qui ont pris rendez-vous pour une chirurgie parce qu'ils trouvent qu'ils ont l'air fatigués, qu'ils ont des poches sous les yeux, qu'ils ont le cou qui se relâche et que ça les gêne. Et puis, après l'été, ils sont bronzés, ils sont reposés, ils ont fait attention à eux, ils ont mieux dormi. Mmh. Et puis, ils se disent, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Et ils décident de reporter leur opération.
C'est quoi votre pic, vous, de fréquentation pour le visage ?
C'est généralement l'hiver.
Ah oui,
c'est généralement l'hiver.
Ça va venir.
On sent qu'on a l'air fatigué.
Alors, Caline, est-ce qu'on est d'accord ? On a tous des complexes ? C'est normal d'en avoir ou pas ?
Oui, c'est hyper normal au fait d'avoir des complexes. Ça même fait partie de l'humanité. Nous sommes par définition tous imparfaits et donc condamnés à avoir des complexes. Et ça fait partie de la vie, quoi. C'est normal d'avoir des complexes.
Même chez les gens très beaux, d'ailleurs. Hein. Mais à quel moment ça dérape ? Alors, à partir de quand ça devient problématique ?
Justement, avoir des complexes, c'est ne pas aimer certaines parties de son corps qu'on trouve négatives pour différentes raisons. J'ai envie de dire, on passe du mauvais côté du miroir quand ça devient une obsession. Mm-hmm. Et que ça vraiment occupe une place hyper importante dans notre vie. Et ça nous empêche de faire des choses.
Et d'avancer, de travailler, de sortir.
De se juger négativement, de penser qu'on est inférieur, qu'on ne mérite pas ni l'amour, enfin, ni
ça
le travail.
Ça peut entamer la confiance qu'on a en soi, les complexes.
Clairement.
Et là, quand ça l'entame, on peut imaginer que ça devient un problème, alors.
Tout à fait. Au fait, ça entame la confiance et le sentiment de valeur. Vous voyez ce qui fait que ce qui est propre à l'humanité, c'est que je suis moins bien, not good enough, ou pas assez ci, ou pas assez ça, ce qui fait que je ne mérite pas. Donc ça, c'est très important dans la dimension. Et c'est ça qui fait la différence entre je n'aime pas une partie de mon corps, et c'est totalement normal d'ailleurs. Très peu, ça c'est effarant quand même de le savoir, que très peu de personnes dans la population générale aiment globalement son corps. On trouve beaucoup de défauts, mais bon, ça fait partie du truc. Mais par contre, il y a une différence entre ne pas aimer certaines choses et souffrir et être prisonnier de défauts qui vous font littéralement souffrir, qui vous impactent négativement dans tous les domaines de votre vie.
Et ça, c'est la dysmorphophobie. On parle de dysmorphophobie dans quel cas concrètement ?
Exactement. La dysmorphophobie, si vous voulez, c'est une fixation sur un défaut ou plusieurs défauts physiques que la personne a repéré chez elle et dont elle a honte.
Mais quelqu'un qui, par exemple, achèterait des Pareos au kilo tout l'été et qui aurait des stratégies d'évitement
pour cacher les kilos, justement.
Voilà. Genre, oh, regarde par là. Moi, je fais tout le temps ça. Hey, regarde. Et par là, je montre un truc et après, je cours jusqu'à la piscine pour pas qu'on me voit. Est-ce que ça, c'est de la dysmorphophobie ?
Alors, c'est toujours intéressant le continuum entre, vous savez, la pathologie et la normalité. C'est toujours
normal,
une question de souffrance.
Ça vous pourrit pas la vie à ce point-là.
C'est-à-dire que on peut se cacher parce qu'on n'a pas envie de montrer. C'est normal de vouloir paraître sous son meilleur jour. Ah oui. Vous voyez, de montrer.
Ça peut être de la pudeur aussi.
C'est de la pudeur, mais ça peut être aussi, vous voyez, se mettre en avant. Ça fait partie le concept de désirabilité sociale. On se met tous en avant, pas seulement physiquement, mais même parfois dans les réponses aux tests psychologiques, on répond de manière plus positive, alors que c'est anonyme. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de sentir qu'on est inférieur, d'avoir honte. Et la dysmorphophobie, c'est vraiment un problème de honte fondamentale. Au-delà du complexe léger, j'ai envie de dire, on n'a pas envie de montrer certaines formes qu'on trouve disgracieuses, il y a une véritable souffrance avec des personnes qui peuvent être suicidaires, en dépression, et qui sont vraiment, qui ont un sentiment d'infériorité intérieure et de honte, et qui peuvent donc, et qui pensent généralement, et ça c'est très important de le dire, que leur problème est physique. Et à cause du problème physique majeur qu'ils ont, ils ne sont pas assez.
Merci beaucoup. On va détailler les choses, essayer de sortir de cette spirale, justement. Vous restez avec nous dans Bienfait pour vous. On parle ce matin des complexes. Petits ou grands, sont-ils la conséquence de maux psychologiques plus profonds ? On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous.
Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi.
Ils en parlaient déjà, Marc Lavoine et Catherine Ringer, de retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre, en compagnie ce matin en studio du docteur Alexandre Marchac, chirurgien plasticien à Paris, et Kaline Majdalani, psychologue spécialisée notamment dans la prise en charge de ce syndrome, la dysmorphophobie, cette obsession de l'apparence, notre thème du jour. Kaline, on parle évidemment beaucoup des réseaux sociaux qui ont probablement accentué ce phénomène, mais il y a aussi depuis peut-être 2020 et le Covid finalement, le fait qu'on s'est vu aussi beaucoup en visio, de près, et on a peut-être plus bloqué, alors là, plus sur des détails du visage, mais ça, vous avez senti cette obsession justement du visage parfait depuis ce moment-là ?
Tout à fait. Au fait, en effet, le fait, on en parlait en début d'émission, le fait d'être exposé à son image, donc ce soit sur la plage ou à travers les photos que reflète notre image, en effet, et en permanence, donc la fréquence à laquelle on est exposé, nous montre plus particulièrement certaines caractéristiques de notre physique. Ce qui est important à savoir pour les réseaux sociaux, il faut savoir que se voir dans un miroir est très différent de se voir dans un appareil photo. Mmh. Ça ne reflète pas le visage à 100%. C'est pas 100% fidèle. Tout dépend bien sûr de la manière dont on se regarde, de la luminosité, de l'angle.
Qu'est-ce qui est plus fidèle alors ? Le miroir, c'est plus fidèle.
Le miroir est beaucoup plus fidèle. Après, on a l'habitude de se regarder d'une certaine façon, donc parfois on ne se voit pas exactement de la même manière. Mais c'est important de savoir que les photos ne sont pas le reflet. Déjà, il y a plusieurs photos possibles de quelqu'un, mais ne sont pas le reflet à 100% fidèle d'un visage humain.
Docteur, vous vous intéressez de plus en plus à l'aspect psychologique de vos patients, vous les chirurgiens esthétiques, non ? J'imagine que maintenant, vous ne faites pas juste du remodelage. Vous avez un interrogatoire à faire ou comment vous savez ?
C'est fondamental. Je ne pense pas que ce soit tellement nouveau. Les chirurgiens plasticiens, on s'est toujours intéressé à la psychologie parce qu'une opération réussie, c'est une opération où le patient, on aura certes remodelé quelque chose, mais il faut que ça soit sur un patient qui soit prêt mentalement pour ça. Il y a trois grandes contre-indications psychologiques à la chirurgie esthétique. La dépression, on ne peut pas opérer quelqu'un qui est déprimé. La dysmorphophobie.
Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas maître de ses pensées ?
Oui, chaque opération, c'est une petite épreuve. Il faut être capable de surmonter le stress que ça va engendrer. Et pour ça, il faut être en forme et il faut être bien dans sa tête. La deuxième chose, c'est la dysmorphophobie. C'est vraiment le sujet dont on parle aujourd'hui. Puis il y a un troisième élément dont j'aimerais bien qu'on parle également, qui est l'entourage toxique. Qui est le fait d'être entouré de gens qui vont vous
pousser à faire quelque
pousser
chose.
À faire ça. Et ça, on voit ça de temps en temps, notamment, et ça, on pourra en parler avec Kaline, mais l'entourage toxique, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Mais genre une mère qui amène sa fille de 18 ans pour se refaire faire les seins parce qu'elle en a envie, elle, et pas
la fille.
Oui,
c'est pas tellement les seins, mais ça peut être, par exemple, une mère qui amène sa fille pour des... Moi, je vois ça souvent, par exemple, pour des oreilles décollées avec des enfants où on leur dit, alors, qu'est-ce que tes oreilles, elles t'embêtent? Non, elles m'embêtent pas du tout.
Mais elles embêtent maman, quoi.
Voilà, et les mamans qui disent, mais regardez, docteur, on peut pas le laisser comme ça, il ressemble à Dumbo, ou alors c'est les oreilles de son père, ou un truc comme ça. Alors ça, bien sûr, il ne faut pas opérer quelqu'un parce que ça ne vient pas de lui. Une demande de chirurgie esthétique, ça doit venir de soi et pas de l'entourage.
On vous a déjà demandé des choses qui vous paraissaient justement, alors au-delà de l'entourage toxique, mais là, quelqu'un qui viendrait dans votre cabinet et qui vous demanderait quelque chose de totalement improbable, genre, je ne sais pas, refaites-moi le nez alors qu'il est impeccable et magnifique ce nez. Après, c'est très subjectif comme chose, mais comment vous réagissez ?
Alors, donc ça, c'est ce qui amène justement à la dysmorphophobie. On a dit qu'on a tous le droit d'avoir des petits complexes, mais que c'est le retentissement que ça prend dans notre vie qui est compliqué. Ce qui va m'alerter, ça va être la disproportion entre ce que je vois, un nez fait avec une petite bosse, ou voire même parfait.
Après, ce n'est que votre jugement. Ce que je veux dire, c'est que vous, un nez que vous allez trouver mignon, peut-être que ce ne sera pas le goût de votre voisin.
Le chirurgien plasticien, il a une particularité, c'est que c'est à la fois un médecin, un chirurgien, donc un technicien, mais aussi il faut qu'il ait un sens artistique.
Des proportions et
tout ça.
Et puis
un sens psychologique.
Ouais.
Voilà. Et donc, mon regard, c'est un regard où je vois le visage dans sa globalité et je cherche l'harmonie. Et donc, il y a des gens qui se plaignent d'avoir une petite bosse sur le nez, mais finalement, cette petite bosse, elle va très bien avec l'ensemble de leur visage. Alors, bien sûr que c'est personnel, et moi, je peux répondre à la question technique. Est-ce que c'est possible de corriger cette bosse sans danger ? Quel est mon intervalle de précision ? Mais après, je suis là pour aussi donner mon jugement.
Et à quel moment vous dites non, alors ? Si moi, je veux vraiment me faire retirer ma petite bosse, qui pourtant va bien avec mon visage...
Magnifique, votre nez.
Non, mais j'ai pas de bosse. Ne touchez pas à votre nez. Il est magnifique.
Il est super, mon nez. Voilà.
Peut-être que vous avez le mieux, moi, je trouve.
Il est magnifique, ce nez.
Je vous remercie.
Je peux rajouter quelque chose d'important par rapport, si je peux me permettre, Alexandre. Il est important que quand une demande est faite d'un patient auprès d'un chirurgien, que le chirurgien voit ce que l'autre lui dit, indépendamment d'un jugement esthétique. Oui. Si vous dites « j'ai une bosse, elle me déforme le visage » et que, par exemple, le chirurgien se renseigne davantage et qu'il ne voit pas visuellement ce que le patient décrit, ça c'est une, pour moi, c'est un gros signal d'alerte.
Et dans ces cas-là, vous les envoyez chez un psy?
Oui, alors c'est ça, mon rôle c'est un rôle de soignant, donc ils ont un problème, ils souffrent de leur bosse, même si elle est imaginaire, ou en tout cas très petite, et donc mon rôle c'est pas simplement de dire non, c'est d'essayer de les aider à guérir de leur problème, et donc si c'est pas de la chirurgie, ça va être avec Caline, avec la psychologue.
Quand ils arrivent chez vous, ils doivent être déçus, parce qu'ils disent le chirurgien m'a envoyé chez la psy, qu'est-ce qu'elle va
me faire encore? Surtout, c'est important de préciser que dans la dysmorphophobie, c'est vraiment, les gens sont persuadés, c'est pour ça qu'ils ne consultent pas généralement des psys ou dans un deuxième temps, parce qu'ils sont déprimés, qu'ils ont des idées noires ou suicidaires.
Et vous pouvez pas enlever les bosses sur le nez, que je sache.
Non, c'est ce qu'ils me disent, mais c'est important de comprendre que justement, c'est le regard qu'on porte sur le visage. Ce n'est pas la bosse en soi, c'est la manière dont je regarde cette bosse. Et c'est la souffrance qui en découle, qui est importante. C'est-à-dire que quand ils viennent me voir, moi généralement, Alexandre ou d'autres chirurgiens me disent « voilà, j'aimerais l'avis de Caline pour qu'on puisse en parler ». Et là, moi je dis « voilà, justement, quel est votre pourquoi ça vous fait autant souffrir ?» Et on voit bien que c'est disproportionné. Et ça aussi, c'est important pour les chirurgiens de réaliser que la demande, elle n'est pas seulement une demande de changement de nez, c'est une demande qui cache beaucoup de choses derrière. Et quand il y a beaucoup d'attentes, même si physiquement on arrive au résultat, eh ben, on ne peut pas faire plus d'amour, plus de bonheur ou réparer un individu
son identité. Caline, c'est que même si un chirurgien qui ne serait pas Alexandre et quelqu'un de beaucoup moins professionnel corrigeait cette bosse quasi inexistante, eh ben, ça ne comblerait pas la patiente dans...
Ça peut même générer beaucoup de problèmes, même vis-à-vis du chirurgien, notamment si la personne, le patient a beaucoup d'attentes de réparation. Il y a une réparation physique, mais derrière, il y a une attente, un retentissement psychique. Ils veulent se réparer. Et ils attendent des chirurgiens qui leur réparent parfois aussi un nez. C'est, comme vous disiez, un code génétique, ça rappelle quelqu'un. Parfois aussi, c'est un problème lié à de la violence. Enfin, il y a mille et une choses qui peuvent se cacher. Et dans une chirurgie, il faut le savoir, c'est pour ça qu'il faut être en forme, c'est un changement. C'est un changement physique. Et dans l'identité, le physique est un point de départ fondamental. Il suffit de changer un micro-truc pour déstabiliser quelqu'un. Alors, dans le positif, parce que c'est important de le préciser, on peut le booster, c'est un booster dans
c'est
le fonctionnement.
Génial,
vous voyez là, tout d'un coup, moi je suis un petit peu déprimée, mon mari est parti, machin. Je me refais un truc, donc ça relance mon estime de soi. C'est très différent de quelqu'un d'instable et de mal dans sa peau à qui je modifie même un truc, et même positivement.
Docteur,
je peux le déstabiliser psychiquement.
Docteur Marchat, est-ce qu'il y a un profil de personnes qui sont plus touchées dans ce que vous voyez dans votre patientèle, justement, quand c'est des cas de dysmorphophobie? C'est plus des femmes, plus des hommes? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce que vous avez identifié un profil?
Oui, c'est plutôt les gens jeunes. La dysmorphophobie, Caline pourra confirmer ces chiffres-là, mais c'est à peu près 2% de la population. Dans une consultation de chirurgie plastique, c'est 13%.
Forcément. Hein.
Et pour les gens qui font que de la rhinoplastie, c'est 25%.
C'est souvent le nez, alors, le problème.
Donc, alors, c'est pas souvent le nez, mais disons que quand vous faites de la rhinoplastie, il y a effectivement plus de patients qui souffrent de dysmorphophobie.
Eh bien, merci. Oui, pardon, je n'ai pas fini. On continue après, ça
vous va? Le nez est très important, qui a une place centrale. En effet, le visage représente une... vraiment un sujet de prédilection chez les patients dysmorphophobes. Et en effet, le nez, qui est une partie centrale du visage, le seul organe de notre visage principal, qui n'est pas un organe de communication, mais qui est visible,
bien sûr.
Saillant. C'est pour ça qu'il y a plus d'obsession dessus.
Et puis, il est au milieu de la figure, c'est important de le rappeler. Merci à tous les deux. On sera de retour dans quelques minutes. On se plonge ce matin au cœur de nos complexes. On déballe tout et surtout, on va vous aider à analyser si vos complexes sont justifiés ou uniquement dans votre tête. Pour y voir plus clair, un seul conseil, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On décortique nos complexes aujourd'hui. Alors vous savez, ceux qui nous embêtent ou qui nous pourrissent parfois carrément l'existence. Comment savoir si on peut apprendre à vivre avec ces complexes ou si la chirurgie peut nous libérer? Eh bien, on en parle justement avec le docteur Alexandre Marchac, chirurgien plasticien à Paris, et Caline Madjalani, psychologue spécialisée notamment dans la prise en charge de ce syndrome, la dysmorphophobie. Alors Caline, personne n'a envie d'être moche, hein, ça c'est sûr,
c'est
mais pour ces personnes, elles souffrent vraiment très très fort, on l'a vu avec vous. Vous nous disiez parfois que ça peut même les empêcher de faire correctement leur travail, c'est-à-dire Qu'est-ce qui peut arriver ? Alors,
tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que on a tous envie d'être beau, n'est-ce pas ? Le culte de la beauté existe depuis toujours. C'est pas un phénomène récent. On voit bien l'obsession des Grecs. C'était vraiment un moyen privilégié pour accéder au divin. Donc, ça a toujours été là. Et on peut comprendre cette dimension physique qui est présente. Le corps, c'est une partie fondamentale de notre identité. C'est ce qui est en premier quand on est, voilà, il n'y a pas d'esprit sans corps, quoi. Donc, il faut savoir que ça fait partie principalement de l'identité. Maintenant, quand l'identité profonde est touchée, et que vous avez un rapport à votre corps qui est altéré, ou vous ne le considérez pas assez bien, ou vous n'êtes pas assez bien, bah vous êtes diminué dans vos fonctions. Que ce soit vos fonctions professionnelles, parce que ça peut toucher le travail, mais ça peut aussi être vos fonctions en tant qu'être humain, capable d'être aimé, parce que derrière la quête de la beauté et de la perfection, que se cache-t-il en réalité ?
La quête de l'amour.
On veut tous être aimé, n'est-ce pas ? Et être aimé, ou être le plus aimé parfois, ou se sentir supérieur pour camoufler ou compenser d'autres dimensions d'infériorité interne à nous.
Alors à l'opposé, il y a des gens qui sont simplement très complexés, mais pas forcément dysmorphophobes. Et la chirurgie, là pour le coup, peut littéralement leur changer la vie. Je crois que vous avez des exemples en tête, docteur Marchak, notamment un garçon de 15 ans qui avait les oreilles décollées, je crois, hein, c'est ça ?
Oui, on en parlait tout à l'heure.
Et là, c'est des transformations très positives,
oui,
pour
alors,
le coup.
La chirurgie plastique, ça existe depuis des décennies. On sait, tous les chirurgiens, qu'on a des histoires merveilleuses de gens dont l'estime de soi est améliorée. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. J'ai revu la semaine dernière un garçon de 15 ans que j'avais opéré des oreilles décollées il y a quelques mois. Et avant, il était très introverti. Vraiment, sa maman disait qu'il avait du mal à l'école et qu'il avait du mal à s'ouvrir. Et puis, je le revois 6 mois plus tard. Transformation, il est beau, il est épanoui. À l'école, sa mère dit qu'il a vraiment complètement changé ses relations. Donc ça, c'est des histoires qu'on rencontre souvent.
Il était très complexé, vous l'avez sauvé, quoi.
Voilà.
C'est un peu
donc
ça. Hein,
et ouais. C'est un garçon qui est pas de problème, qui est sain. Alors il est jeune, il a un moment de sa vie qui est assez difficile, qui est l'adolescence, une phase où notre image est assez fluctuante. Et donc c'est une période qui est voilà, mais
dites-moi, docteur, moi qui suis par exemple maman d'un adolescent, vous croyez pas que nous, en tant que parents, on a aussi intérêt à les détourner un peu de cette perfection physique ? Je vois les réseaux sociaux, ils sont toujours en train de se comparer.
Puis il y a des filtres, quoi. Oui, c'est pas la réalité. Ouais. En plus,
qu'est-ce qu'on fait nous, les parents d'ados ?
C'est très compliqué. C'est une période. C'est une période. Donc, comme je disais, l'adolescence est une période difficile parce que notre image est fluctuante. On a tous un espèce d'avatar mental, une idée que l'on a de notre corps quand on est adulte. Elle se fixe généralement dans la vingtaine, trentaine. Moi, j'ai 45 ans, j'ai l'impression que j'ai toujours 30 ans. Et le problème du vieillissement, c'est qu'on se désynchronise progressivement de notre avatar. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un avatar.
En quelque sorte.
Voilà. Mais l'adolescent, lui, il n'arrête pas de changer. Tous les 6 mois, tous les ans, il a les pieds qui grandissent, les épaules qui grandissent. Enfin bref, ça change. Donc, ça ne s'est pas encore fixé. Opérer un adolescent, c'est plus difficile. Moi, le conseil que je donne aux parents, c'est d'écouter. Il ne faut pas nier. C'est pas une bonne attitude de dire mais non t'es très bien on
fait
rien.
Très bien comme ça.
Je t'ai fait parfait de toute façon.
Faut pas nier, il faut bien l'écouter, il faut éventuellement faire une première consultation avec un chirurgien et globalement il faut quand même essayer de temporiser. De gagner du temps. Et puis, si on voit que vraiment la plainte est très, très importante, il ne faut pas hésiter à ce qu'il voit un psychologue.
Caline, est-ce que c'est un problème, la dysmorphophobie ? Vous l'avez dit, ça touche plutôt des patients jeunes. Mais est-ce que, je ne sais pas, tout d'un coup, à 45, à 50 ans, on peut devenir dysmorphophobe ?
Alors, je pense qu'on peut. Il n'y a pas d'âge limite. Mais par contre, c'est généralement assez suspect. Ça peut être aussi, ça peut refléter d'autres problématiques, comme par exemple une dépression masquée, où tout d'un coup, on se retrouve fixé sur son apparence. Mais généralement, la dysmorphophobie, avant d'apparaître comme un trouble, c'est une façon de regarder les choses. C'est une manière visuelle de regarder. Donc, on parlait de défaut tout à l'heure imaginaire. C'est pas imaginaire.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus un truc de femme quand même. Mais non,
alors,
vous dites qu'il y a des hommes autant.
C'est autant d'hommes dans les études, c'est autant d'hommes que de femmes. Maintenant, parfois, les zones peuvent être différentes, mais ce n'est pas toujours le cas.
C'est-à-dire, quelles zones
Je vais vous dire juste, mais c'est important de savoir que ce n'est pas un problème justement de féminité ou d'identité, puisqu'on a longtemps attribué la beauté à la femme. D'ailleurs, aujourd'hui, les hommes sont un peu plus préoccupés par leurs apparences qu'ils ne l'ont été avant, donc c'est beaucoup plus mixte. Mais de manière générale, la dysmorphophobie touche les deux sexes.
Et dites-moi, si j'ai une maman dysmorphophobe, est-ce que j'ai plus de chances de moi le devenir ? Est-ce que ça se transmet dans les propos aussi
Bien sûr.
On a une mère qui dit « Ah, je suis trop grosse, d'ailleurs tu devrais faire attention à tes cuisses ».
C'est très intéressant. Il y a deux dimensions, comme dans tous les troubles psychologiques. C'est jamais très simple, mais la part génétique est importante. Déjà, il y a la prédisposition génétique et il y a l'éducation et l'apprentissage de focalisation sur les choses. C'est-à-dire quand on apprend, vous parliez des adolescents tout à l'heure, en effet, c'est important le physique, et le physique est en plein changement, mais il n'y a pas que le physique. C'est ça. Et sur les réseaux sociaux, on voit principalement le physique qui est reflété. Et c'est ça qui est important, c'est de garder l'identité ouverte à différentes dimensions. Il y a le comportement, il y a beaucoup d'attitudes, il y a sa manière d'organiser des activités, de faire des choses, d'être en lien avec les autres autrement que par une comparaison uniquement sur le physique et sur les réseaux sociaux.
Docteur Marchak, donc vous dites que quand vous identifiez en consultation un patient qui souffre de dysmorphophobie, donc pour qui, pour vous, à ce moment T, la chirurgie n'est pas l'indication, vous l'envoyez chez Caline éventuellement, mais parfois il y a un retour de chez Caline à chez vous, il ne faut pas oublier. En fait, une fois qu'ils vont mieux, qu'ils ont soigné un peu les maux du cœur, on va dire, les maux de l'âme, ils peuvent revenir chez vous, ça peut aider, une deuxième étape.
Absolument, c'est le schéma idéal. La dysmorphophobie, il y a un spectre qui peut être où ça peut être plus ou moins sévère. Il y a des formes légères et puis des formes très sévères. Dans les formes légères, dans ce cas-là, le schéma idéal, c'est qu'ils viennent pour une consultation de chirurgie. On se rend compte que la plainte est disproportionnée par rapport au problème esthétique et qu'ils en souffrent de manière trop importante. Dans ce cas-là, je leur dis, écoutez, ce n'est pas le bon moment pour se faire opérer. Il faut d'abord voir un psychologue et effectivement quelqu'un qui connaisse bien cette pathologie comme Caline. Ils vont le voir. Ils comprennent mieux la part de la psychologie. Caline réussit à améliorer tout ça. Et ensuite, ils reviennent et on fait l'opération dans des bonnes conditions. Et là, ça se passe bien.
Ça, c'est un bon parcours. D'abord, le chirurgien, la psy. Et pourquoi pas le retour au chirurgien. Je crois que tous les deux, je vais commencer par vous, Caline, vous utilisez dans vos cabinets respectifs un miroir. Comment vous vous en servez et est-ce que nous, chez nous, ça peut nous aider aussi de nous mettre face à un miroir?
Bien sûr. Déjà, la dysmorphophobie, c'est un miroir dans la tête. C'est un miroir avec une loupe. C'est un miroir déformant. Ce sont des personnes qui regardent ce qui ne va pas dans un visage. Donc, il y a une façon de regarder. Et on sait dans le cerveau aussi, il y a des zones cérébrales spécifiques. On regarde en détail ou de manière globale. Donc, le miroir sert dans le cabinet à faire cet apprentissage-là, qui est généralement dysfonctionnel. Ça, ce sont de nouvelles données qu'on a sur la dysmorphophobie. Ce n'est pas seulement mental, c'est aussi visuel.
Donc, il faudrait qu'on arrive à se regarder globalement.
Exactement. Et ne pas zoomer. Uniquement, c'est ce qui se passe généralement quand on regarde les défauts, on zoome sur les défauts. Bon, c'est normal, quand on a envie de regarder quelque chose en détail, on zoome dessus, mais on dézoome d'habitude. Et là, on a un zoom in et on reste bloqué dessus.
Focus.
Et la personne, exactement, mais cérébralement, c'est prouvé aujourd'hui, n'a pas une vision globale de son visage. Donc, en effet, on se retrouve avec une fixation sur une bosse, visuellement. Donc, vous imaginez quand vous zoomez sur une bosse, vous avez la taille de la bosse qui est beaucoup plus grande. Et cette personne pense que cette taille-là est la taille réelle qu'elle a. Et c'est ça qu'elle croit que les autres voient.
Oui. Docteur Marchak, chez vous, le miroir, il est important en consultation aussi?
Oui, il est très important et je le double. Donc, c'est très important pour moi de voir la façon dont les gens se regardent.
Vous le doublez, vous en mettez un devant, un derrière, c'est encore pire.
Je le double de photographie. Donc, dans la première partie d'une consultation, les gens me racontent ce qui ne va pas dans leur vie et pourquoi est-ce qu'ils sont là et tout ça. Ensuite, je leur demande de se regarder dans un miroir. Et c'est très intéressant de voir la façon dont ils tiennent le miroir. Les gens, qui, normalement, vont le tenir à une certaine distance. Et puis, il y a des gens qui vont le tenir à quelques millimètres du visage en montrant « Regardez, ça m'embête. » Et ça me montre que déjà, effectivement, qu'ils ont un rapport un peu problématique avec leur miroir. Et ensuite, on prend des photos. Alors, j'ai des appareils photos qui n'ont pas d'anamorphose, comme les petits smartphones.
C'est quoi l'anamorphose?
L'anamorphose, c'est la déformation liée à l'optique. Mmh. Et donc, quand vous utilisez un optique panoramique pour faire de la photo de paysage, ce qu'il y a sur les smartphones, en fait, ça entraîne un gros nez, des petites oreilles.
Alors là,
donc,
c'est vraiment réel. C'est nous tel qu'on est.
Alors que quand vous utilisez un réflexe avec une focale fixe en 80 ou 100 mm, vous n'avez pas de déformation optique. Et ensuite, on regarde ensemble les photos sur un ordinateur. Et là, souvent, les gens me disent... Ah oui, finalement, je me rends compte que c'est pas si mal. Et donc, c'est effectivement, ça permet de montrer à quel point la globalisation de l'information est importante.
Bon, mais merci beaucoup à tous les deux. On pourrait encore en parler pendant des heures. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a compris que pour les complexes qui nous embêtent ou nous empoisonnent, quoi qu'il en soit, il y a des solutions, des parcours différents. On va chez Caline, on retourne chez le docteur Marchat ou chez d'autres. Enfin, en tout cas, des solutions. Et je rappelle donc que pour en savoir plus, votre livre, Caroline Mage d'Alani, Traiter la dysmorphophobie aux éditions Dunod. Julia, on va changer de sujet maintenant.
Et oui, dans très peu de temps dans ce studio, vous allez entendre nos bienfaiteurs du jour. On va commencer avec la chronique Lecture Jeunesse de Nathalie Le Breton aujourd'hui. Elle a sélectionné les bouquins qui mettent des mots sur la pression que subissent parfois nos enfants et notamment à l'école. Et puis on va mettre aussi la figue sous les projecteurs. C'est le fruit qu'a choisi de mettre en valeur le chef Abdel Alaoui aujourd'hui. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Tout de suite, on va attaquer la partie de l'émission dans laquelle on retrouve nos bienfaiteurs du jour. On va commencer avec les conseils lecture de Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez des livres qui devraient inciter nos enfants à savoir dire non, à cultiver leur esprit rebelle. Oh là là, je crains le pire. Mais quelle mouche vous a donc piqué? Vous voulez embêter tous les parents qui nous écoutent? Quand beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants qui s'opposent à tout, vous les encouragez?
Mais oui,
vous êtes sérieuse là.
Je suis tout à fait sérieuse.
Faites attention parce qu'il y a mon fils en régie aujourd'hui, alors j'aimerais pas que vous l'inspiriez trop. Hein.
Alors écoute-moi bien, je pense que c'est peut-être le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Bien sûr, vous faites allusion aux terrible twos quand ils s'opposent absolument à tout. Ils disent non, mais souvent ça veut dire oui. Mmh. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui va être important aujourd'hui, c'est, et je voudrais vous présenter des livres dans le sujet, c'est de savoir dire non à bon escient. Essayez de rompre avec l'image, vous savez, de sage comme une image qu'on donne aux garçons et parfois aux filles. Et donc d'utiliser la palette formidable que l'on a. Il faut parfois une vie, on est d'accord. Alors on va commencer avec un album qui s'appelle Plein les bottes, qui est un livre de Leïla Brion, ça ne s'invente pas. Et je peux vous dire que non seulement les illustrations sont merveilleuses, mais le texte aussi. C'est l'histoire d'un petit Elliot, c'est la rentrée scolaire. Hein. Mm-hmm. Alors on est en plein dans le bon moment et on lui offre une paire de bottes. On en a tous rêvé pour aller sauter librement dans les flaques. Alors il est trop content avec ses bottes, sauf qu'elles sont un peu larges, comme toutes les bottes pour aller sous la pluie. Et là, les parents arrivent hyper bien intentionnés, avec tellement de recommandations pour lui donner du plomb dans les semelles. Et donc, la famille s'y met en entier. Et le grand-père de lui dire « Non, mais attends, à l'école, là, c'était le roi des osselets et des billes. Vas-y, mets des sacs de billes, ça va aller. » La grand-mère, hyper précautionneuse. « Oh, mon petit chéri, mais non, il faut que tu prennes une trousse à pharmacie, des pansements, quelque chose. Tu risques de te faire mal. Allez, une trousse à pharmacie, dans les bottes. Le père nous nourricier, vous voyez. Alors là, non, mais tu vas voir faim, la cantine, c'est quand même assez moyen. Tiens, un goûter, deux goûters.
Ça devient le sac de Mary Poppins, ce truc-là.
Attendez, il n'y a pas eu la maman encore.
Et voilà, et la maman, vous vous doutez où ça va, c'est-à-dire la maman qui, elle, vise que son fils réussisse dans la vie, réussisse ses études, et des cahiers, et des règles, et des crayons. Là là. Sauf que voilà.
Plein les bottes.
Quand on en a plein les bottes. Et comment être soi? Comment jouer dans la légèreté avec les autres quand on en a autant dans les bottes? Comment se libérer? Ce petit garçon a bien envie d'aller jouer avec une petite fille qui est là. Il retire donc ses bottes avec toutes les recommandations, les intentions, les poids, les bonnes. Enfin voilà, tout ça, il se libère et enfin il va prendre du plaisir en jouant avec cette petite fille. Il va se libérer des carcans familiaux.
Mais dites-moi, c'est un message pour nous les parents, non? Ça nous dit quoi à nous?
Oui,
calmer le jeu un peu.
Et exactement, c'est-à-dire que à la fois il faut les encourager, mais si on est trop intrusif, effectivement, c'est là qu'on donne du poids et l'enfant n'est plus soi-même, il n'a plus d'espace pour savoir qui il est. C'est-à-dire, il est la reproduction exacte de ce que voudrait toute la famille et ses parents.
Et c'est donc il faut savoir s'émanciper des recommandations familiales et des injonctions parentales, certes, mais il y a aussi à l'école des enfants qui veulent plaire à tous et pensent qu'en disant oui, bah ils auront plus d'amis. Là aussi, c'est compliqué.
Ouais, vous connaissez ces enfants hyper sages. Et je dois dire que j'en parle. Moi, il m'a fallu probablement 4 dizaines pour y arriver. Vraiment faire plaisir à tout le monde, être exactement, toujours dire oui. C'est le cas de notre petit loup, de Claudie Stanquet et Barou. Non, 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 c'est non. Et c'est sorti aux 400 coups. Et c'est l'histoire de ce petit loup qui se dit, mais moi, j'en ai marre de dire toujours oui à papa, à maman, aux copains, etc. Il s'entraîne devant son miroir. Ça ne marche pas. C'est vrai que savoir dire non, il faut effectivement regarder les circonstances et ce qui se passe. Alors le miroir, bon, il y a un non qui finit par sortir, mais c'est quand même très difficile. Il se retrouve à un moment donné, il part, il se dit, ça y est, je sais dire non. Il retrouve une petite fille sur le chemin de l'école et qui a coincé quelque chose et il est obligé de lui venir en aide. Comment dire non à une petite fille beaucoup plus petite que soi? Alors il a non, oui. Il craque et ensuite il se retrouve dans l'école, il y a un cerf-volant. Là aussi, il y a un petit groupe de copains qui lui dit, mais va chercher mon cerf-volant. Et alors il se dit, bah, non, mais en plus il a le vertige. Savoir dire non quand on a un problème, soi-même, ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, c'est un petit peu le message, et ben il va y aller quand même parce qu'il ne sait pas dire encore Non, il va monter et d'un seul coup, il y a trois méchants loups qui vont arriver et il va glisser de son arbre parce qu'ils vont lui dire « Mais vas-y, vas-y, décroche la lune, décroche la lune !» Et alors là, il arrive enfin à dire non, il glisse, mais il a réussi, il retrouve la légèreté.
Je crois que très rapidement, Nathalie, vous avez un petit dernier à nous proposer, ça concerne les petites filles plutôt.
Mais oui, un petit chaperon rouge, excellent livre de Marjolaine Leray qui est sorti chez Encore une fois. C'est l'histoire tout à fait classique d'un conte revisité que vous connaissez par cœur, où cette petite fille va être prise et dévorée par le loup. Le mot est important parce que là, on peut parler de situations que vivent les petites filles. Et en fait, elle va faire face à ce loup méchant cette fois. Et elle va être dans l'histoire. Oui, oui, t'as des grandes dents, tout ça, oui, vous connaissez. Oui, oui. Et puis, il y a un moment donné, elle lui dit « Oh là là, t'as quand même mauvaise haleine. Hein. » Tiens, elle va lui donner un bonbon et il va s'étouffer avec ça. Et alors, et donc, parce qu'il va prendre le bonbon, bien sûr, lui, il va dire oui. Et ça se termine avec ce petit chaperon rouge qui est une fille formidable. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elle va se retourner vers lui, elle va dire
je le
naïf.
Veux, celui-là, je le veux. Quel couillon, ce loup-là, ce grand méchant loup. Merci, hein, Nathalie, pour ces recommandations de livres pour enfants qui nous ravissent, nous aussi, les parents. On retrouve leurs références sur europe1.fr et tous vos choix dans vos box notissés au ton. Allez, il est temps de passer à table. J'ai faim.
Ça va les filles?
J'ai faim de figues. Bien. Ça tombe bien, non?
Ouais, c'est très bien.
Allez, on vous écoute.
Alors, les filles, ouais. Et les figues. Alors, les figues. Alors, avant que ce soit la fin de la saison, je voulais vous en parler. Elles sont toutes pulpeuses, sensuelles, juteuses pour certaines, gorgées de soleil et de sucre. Elles rappellent les vacances, elles sentent la Grèce, l'Italie, le Sud, le Maroc. On les appelle les violettes de Solies, les sultanes, les gouttes d'or, les rouges de Bordeaux, les marseillaises. Oui, on dirait des noms de clubs de foot féminins, mais non, ce sont bien des variétés de figues, mesdames.
Il est excité par la figue.
Il aime la figue.
Vous voyez comment elle est sensuelle, cette petite figue.
Donc il en existe plusieurs variétés.
Alors,
hein,
il existe
bon.
Plusieurs variétés, 700
on les a pas toutes en
exactement,
France, forcément, hein.
Mais les plus courantes, c'est celles dont je viens de parler, qu'on trouve facilement sur les étals de marché. Par exemple, la violette de Solies, c'est celle que j'ai là, c'est la seule AOP, elle pèse presque 80 grammes pour les plus grosses.
Elle est longue,
elle est toute douce, elle est violette, elle est hyper sucrée. Ouais.
C'est bien qu'elle soit douce là.
C'est ce qu'on appelle aussi, vous savez que les figues, c'est ce qu'on appelle aussi un faux fruit en forme de goutte, elle renferme plusieurs petites fleurs. Et qui croque sous la dent, et ces petites graines. C'est comme si on prenait des fleurs comme ça ouvertes et qu'on venait fermer, et ça forme cette petite goutte qu'on appelle la figue.
Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai toujours du mal à choisir la figue. Ouais. Parfois, je vais choisir un petit peu molle, là, justement, en me disant bon, mais elle va être trop mûre, et puis après, c'est pas bon. Alors, comment on choisit une bonne figue?
Alors, évidemment, j'ai appelé la spécialiste des figues. Elle s'appelle Christine Ross, arboricultrice dans le Sud, et elle est aussi artiste. Hein, elle fait des bouquets de fleurs, et on va l'entendre, tiens.
Pour savoir si une figue est mûre et prête à être consommée, on peut observer sa peau qui normalement devrait être légèrement craquelée et souple au toucher. Ensuite, il faut aussi observer le stiole d'une figue, petit orifice sous la figue. S'il s'écoule une goutte sirupeuse, c'est le signe d'une figue très juteuse, sucrée et très goûteuse. Dans ce cas-là, le fruit doit être consommé très rapidement.
C'est super, Mélanie, on a plein la bouche.
Non, c'est la figue séchée, j'adore ça.
Comment on peut les cuisiner, les figues? On en trouve dans du salé, parfois.
On peut les trouver dans les salés, on peut les faire en confiture quand elles sont mûres, en chutney pour accompagner un bon foie gras, toutes fraîches à déguster avec un granola. On fait un petit fromage blanc ou un yaourt 0% de marte. Tiens, grâce. On met des petits granolas par-dessus, des petites figues comme ça coupées par-dessus, ou même rôties au four avec une légère pointe de vanille.
Bon.
Prenez la gousse de vanille, vous la coupez en deux, vous récupérez les graines, vous mettez ça avec du beurre sur vos figues que vous coupez légèrement comme ça au-dessus en quatre. Vous mettez ça au four à 180 degrés, elles vont rôtir avec cette gousse de vanille. C'est hyper bon.
Je crois que vous avez une recette spéciale pour nous aujourd'hui. Hein.
Alors, j'ai une recette qui est très très simple, qui ne demande pas beaucoup de temps. Alors,
c'est des
briques de figues à la feta. Alors, on connaît les briques, hein, c'est ces petites feuilles de briques.
Est-ce que c'est les feuilles de briques,
soit triangulaires.
Bah, évidemment, c'est la base.
C'est la base de la nourriture de Julien. Alors, 6 briques de 6 feuilles de briques pour cette recette, 10 figues fraîches, 200 grammes de feta, 3 cuillères à soupe de miel, 10 noix fraîches concassées, ça tombe bien, c'est la saison des noix, 6 feuilles de sauge, pareil, on en a de la sauge. Hein. Alors, pas besoin de sel parce que la feta est déjà assez salée. On va commencer par préchauffer son four à 180 degrés. OK, pour qu'il soit bien chaud au moment où on va mettre nos briques dans le four. Okay. Alors, vous étalez ces feuilles de briques
toute simple. Alors vous voyez à quoi ça ressemble. On peut aussi prendre les feuilles, vous voyez, les toutes fines.
Sulfurisées.
Non,
pas sulfurisées. Non.
La
feuille de si je le fine.
De.
Ah, je l'ai.
Là aussi.
On est des bonnes cuisinières. On reste sur les feuilles de briques. C'est pas grave.
On dépose la feta par-dessus en morceaux, les figues coupées en quatre. Vous versez un tout petit peu de miel par-dessus, ça va apporter du sucre. Vous déposez comme ça les petites noix concassées, les feuilles de sauge. Vous fermez et vous obtenez la forme que vous voulez, tant que ça fasse un petit chausson, soit un triangle, soit
vous allez
soit
nous payer ça comment, Julia? En triangle, en chausson, qu'est-ce que vous préférez?
Vous préférez quoi?
Mais moi, je fais des briques au kilomètre. On m'a appris une fois, maintenant j'arrive. Oui, et je les fais en triangle, moi, perso.
Ah, d'accord.
C'est très facile.
On a enfin découvert le seul plat que Julia sait faire.
Et du coup, je fourre n'importe quoi dedans.
C'est bon, on peut tout mettre, ça. Ça fourre tout, la brique, finalement. On met ça au four 20 minutes jusqu'à coloration et on déguste ça avec une petite salade de mesclun. Et c'était la pâte à filo que je cherchais.
Mais oui, j'ai dit fifi, mais j'hésitais avec la pâte filo, là, les trucs que les enfants pour jouer, mais c'est pas ça.
Ouais, c'est tout simple, hein.
Oui,
ou tout simplement manger comme ça fraîche.
Bon, bah c'est parfait. Moi, je trouve qu'on valide, non, Nathalie, cette recette.
Ça me fait envie.
Allez, merci Abdel pour cette belle mise en valeur de la figue et toutes ces astuces culinaires. Voilà, il est presque midi. Notre émission est terminée. J'espère qu'elle vous a fait du bien. On se retrouve demain à la même heure pour d'autres bienfaits dès 11h sur Europe 1. Julien, on s'intéressera à quoi demain?
Eh bien, un sujet de société important, la contraception stérile et pilule contraceptive ou du lendemain. La contraception est généralement une affaire de femme. Et si on était sur le point de changer tout ça? Des méthodes pour les hommes sont à l'étude. Slip chauffant, pilule masculine, gel, où en est-on réellement, y compris du côté des mentalités? On va faire le point demain dans notre magazine.
Pour le moment, on va passer à l'info sur Europe 1 avec Europe Midi et vous, Romain Desarbres, quel est le programme?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. On va parler de beaucoup de choses dans Europe Midi, notamment de ce match de foot qui agite l'Assemblée nationale. Certains députés de gauche ne veulent pas aller jouer avec des députés du Rassemblement national. On sera avec des députés, puis avec un député. Et avec une porte-parole du Parti Socialiste qui va nous expliquer pourquoi certains députés ne veulent pas aller jouer. Et puis on sera également en direct avec un policier d'Alençon, hein, dans l'Orne. Il va nous dire ce qui s'est passé. Il y a eu plus d'une vingtaine de voitures brûlées hier soir.
Merci beaucoup Romain, on sera à l'écoute. À tout de suite.
À tout de suite.